radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
En 1968, en France, on criait « élection piège à con ». Comment traduit-on ceci en russe? Les opposants à Poutine vont le dire, c'est très 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 facile. Les autres, je ne crois pas, beaucoup moins.
Berkoff dans tous ses états, le fait du jour.
Eh oui. Triomphe de Vladimir Vladimirovitch Poutine, réélu pour un quatrième mandat à la tête de la Russie, avec 76,67% des voix. Alors évidemment, l'opposition, des ONG dénonce des fraudes, des irrégularités. Il n'empêche que je suis toujours assez content de voir un certain nombre. Il y a d'excellents experts de la Russie, hein, Hélène Cardankos, par exemple, qui sait ce dont on parle, Alexandre Adler, mais d'autres, que je ne citerai pas parce que ça ne sert à rien, disaient la petite Sobchak a toutes ses chances. Mais oui, et pendant une semaine, on entendait la petite Sobchak, et vous allez voir, elle va faire énormément de voix, elle a fait 2% des voix.
C'était une des candidates à l'élection présidentielle russe.
Absolument, avec aussi Vladimir Jirinovski, un extrémiste qu'on connaît depuis très très longtemps, exactement. Enfin, toujours est-il que, même s'il y a eu, et on n'en sait rien, mais enfin, même s'il y a eu bourrage d'urne, ça ou là, il n'empêche que 77% des voix, ou presque, c'est quand même un score assez formidable. Et je pense que Vladimir Poutine, en tout cas, aurait été élu, parce que pour le moment, c'est clair qu'aux yeux des Russes, hein, c'est les Russes qui votent, ce n'est pas nous, Français, ce n'est pas les Européens, ce ne sont pas les Européens. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il y a une stabilité, il y a quelqu'un qui a le pouvoir, qui est considéré à tort ou à raison, moi je crois à raison effectivement, comme un homme d'État, et qui défend sa patrie, et qui défend son pays, et qui met son pays et les intérêts de son pays avant le reste. Et écoutez, au risque de passer pour un horrible conservateur recroquevillé sur son identité, je trouve que c'est pas mal de mettre son pays avant les autres, avant le reste. Et je pense qu'en France, en Europe, on devrait faire un tout petit peu d'effort là-dessus, au lieu de se répandre en lamentation ou en admonestation ou en autre. Je rappelle quand même, pour parler de la France, qu'un certain François Hollande avait, suite aux événements de Crimée, avait suspendu, rappelez-vous, la vente des Mistral. Bien, il avait d'ailleurs refusé de vendre des Mistral, ces salauds de Russes qui s'emparent de la Crimée, et je rappelle simplement que la Crimée a été russe depuis toujours.
Ah, il y avait des frontières, hein. Avouez-le, André Berkoff,
enfin, franchement, écoutez, Kiev au départ, si vous regardez l'histoire russe, c'était un des centres vraiment de la Sainte Russie, hein, bien avant le communisme, bien avant tout ça. Mais peu importe, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on dit, voilà, on fait un contrat. On fait un contrat. Alors, si on commence, en fonction de telle ou telle chose, à rompre le contrat, qu'est-ce qui s'est passé? Nos agriculteurs français, il y a eu un embargo sur qui n'était pas rien, sur les produits agricoles français. Et là, aujourd'hui, eh bien, quand je disais que, quelque part, Emmanuel Macron est le fils naturel de Hollande de la finance, je ne me trompais pas, puisque Emmanuel Macron a boycotté le stand russe. Je vous rappelle que le salon du livre de la Porte de Versailles était dédié à la Russie. Eh bien, Emmanuel Macron a boycotté le stand russe. Et je dois dire que là, je ne comprends pas. Emmanuel Macron, qui est quelqu'un de brillant, d'intelligent, pourquoi il boycotte le stand russe à cause de l'histoire
d'espionnage, hein, ça n'avait rien à voir avec la réélection de Vladimir Poutine.
Ah ben, bien sûr. Mais enfin, justement, écoutez, c'est là où il y a vraiment un problème. Il parle aux écrivains, ce n'est pas Poutine qui est là. C'est la veuve d'Alexandre Solzhenitsyn, Natalia Solzhenitsyn. Et elle a dit elle-même, je ne comprends pas cette décision, elle ne sied pas à un leader politique français. Je cite Natalia Solzhenitsyn. La démarche d'hier a peiné beaucoup d'entre nous. Il dit « Toute critique ne peut pas être juste en état d'hystérie. Quand les diplomates ne savent plus se parler, ça devient encore plus important que se parlent les artistes et les gens de la culture et des arts. » Et là, franchement, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris parce que, et je ne suis pas le seul à avoir pas compris, parce que dans ces cas-là, Il sait très bien que ce ne sont pas les politiques qui sont là, ce sont les écrivains russes, ce sont les poètes, ce sont les hommes et les femmes qui écrivent. Ils ne sont pas tous pro-Poutine, ce n'était pas une délégation poutinienne qui était au Salon du Livre. Donc dans ces cas-là, on parle et on se parle. Il ne faut jamais oublier que on peut parfaitement critiquer, et Dieu sait s'il faut le faire, Poutine, mais je veux dire, quand il y a un écrivain russe, d'ailleurs, vous avez remarqué qui est allé voter en Russie,
Gérard Depardieu. Voilà. Exactement.
L'excellent Gérard Depardieu, il est merveilleux. Il doit réussir en Russie. Je crois qu'il vote en Moldavie aussi. Peut-être en France, on ne sait pas.
Comme quoi, il y a des Français qui bourrent les urnes un peu partout. Mais vous voyez, vous parliez de Madame Solzhenitsyn. Les Russes avaient envoyé en exil chez nous, notamment en France, Alexandre Solzhenitsyn, son mari à l'époque, l'écrivain de l'archipel.
Il n'est pas resté très longtemps en France, comme vous savez, il est allé aux États-Unis.
Il était en fuite après, mais l'archipel du Goulag, le pavillon des cancéreux, des grands livres.
C'est justement pourquoi il ne faut absolument pas rompre avec les écrivains et l'esprit. Parce que si on commence à faire ça, après, ça se retourne contre nous. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est très important. Je crois que la Russie, on peut dire ce qu'on veut. Mais à ce moment-là, je vais vous dire, il faut boycotter aussi ce qu'ils ont regardé en Turquie. Est-ce qu'on a boycotté la Turquie? Est-ce qu'on boycotte l'Arabie Saoudite? Est-ce qu'on boycotte un certain nombre de pays qui ont, avec la démocratie, je dirais, des rapports extrêmement lointains, et c'est une litote? Donc, il faut faire très attention à cela. On dira simplement, Emmanuel Macron, relisez Dostoïevski, relisez Tolstoï, ça vous fera beaucoup de bien.
Et en tout cas, Tavarych Berkov, c'est une bonne nouvelle pour vous, la réélection de Vladimir Poutine, en quelques mots?
Oui, pour moi je crois que c'est un gage de stabilité et qu'on en a absolument besoin aujourd'hui dans un univers où les mots ont changé de sens et les sens de mots.
Bon ben voilà qui est dit, 0826 300 300 pour réagir aux prises de position d'André Berkov. Il est dans tous ses états sur Sud Radio jusqu'à 13h et il vous attend.
Sud Radio, André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal.
Bernard Lavillier, délinquant. Oui, on parle beaucoup de délinquance, on parle beaucoup d'insécurité, on parle beaucoup de tout cela. Mais il y a eu un maire qui a pris et qui souhaite, en tout cas, qui a annoncé qu'il plaide en faveur d'un juste équilibre entre action de prévention et fermeté pour améliorer la vie dans les quartiers. Et il souhaite suspendre prochainement les aides municipales pour les familles de délinquants mineurs. Alexandre Vincendé, bonjour.
Bonjour André Berkov.
Bonjour, vous êtes le maire Les Républicains de Rieux-la-Pape dans le Rhône. Et je voudrais que vous m'expliquiez, parce que c'est quelque chose effectivement qu'on a beaucoup entendu, alors certains le souhaitaient, etc. Et vous avancez, vous prenez cette initiative. De quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Oui.
Alors en fait, comme je l'ai dit dans différents médias, le but est d'avancer et de marcher sur ses deux jambes.
Oui.
Je suis maire d'une ville, Rieux-la-Pape, qui est une ville de la banlieue lyonnaise, plus de 30 000 habitants, et j'ai 18 000 de ces habitants qui vivent au sein de la ville nouvelle, qui est un quartier qui est le 8e plus grand quartier politique de la ville de France, en termes de population. On a pris une situation où la rénovation urbaine était quand même en panne, donc on relance ces choses-là. De façon structurelle, on est en train, et on va transformer cette ville de façon urbaine, mais au-delà de ça, c'est quelles sont les actions de politique publique que nous mettons en place pour répondre à ces soucis qu'il peut y avoir dans ces quartiers. Un premier temps, il y a bien sûr les missions de prévention. Nous mettons en place, et dès la rentrée prochaine, du soutien scolaire généralisé en ligne qui sera accessible gratuitement à toutes les familles de la ville. Nous mettons en place, dès la rentrée prochaine, une maison de la famille et de la parentalité qui va être un lieu où on va regrouper toutes les structures, toutes les aides pour pouvoir accompagner les parents qui en ont besoin dans ces quartiers, et pas seulement, puisque derrière vous avez des parents qui sont en grande difficulté sociale, grande difficulté humaine, et qu'il faut pouvoir accompagner. Nous mettons en place des chantiers jeunes, nous mettons en place des accompagnements, nous mettons en place dans des périodes de scolaires.
Mais
de
parlons de la
scolaires.
Délinquance, monsieur le maire.
Je vais y venir. C'est important parce qu'il ne faut pas que ça soit l'arbre qui cache la forêt.
Non, bien sûr, mais c'est important aussi ce que vous faites. Oui.
Nous mettons en place l'ouverture des gymnases encadrés par des animateurs pour accompagner les jeunes. Nous travaillons avec des associations, notamment Sport dans la Ville, qui est une grande association, où nous faisons de l'intégration par le sport. Ça, c'est la première jambe. Sur la deuxième jambe, il faut bien sûr, au-delà de la prévention, ne pas être angéliste et dire qu'à un moment, il faut aussi responsabiliser les parents. Qu'est-ce que cela veut dire? Au-delà de l'arsenal sécuritaire qu'on peut mettre en place dans une mairie, caméra d'hydroprotection, augmentation des effectifs de police municipale, ce que nous avons fait à Rieux depuis 2014. Mm-hmm. Le but est de dire aussi comment responsabiliser un certain nombre de parents, non pas qui sont dans la difficulté, qui sont dépassés, cela nous les accompagnerons, mais comment derrière nous responsabilisons aussi les parents qui n'éduquent pas leurs enfants. Parce que, dans un sens, quand vous avez un enfant mineur, les parents sont les premiers éducateurs des enfants.
Ce n'est pas l'école, c'est la famille.
Et bien, exactement. La famille, l'école est là pour en donner un cadre républicain, pour instruire, mais les premiers éducateurs, ce sont les parents, et au-delà de ça, les parents, c'est la loi d'ailleurs qui le dit, sont responsables des agissements de leurs enfants quand ils sont mineurs. Il y a un certain nombre de parents qui peuvent bénéficier d'aide municipale si leurs enfants dégradent un bien public, un bien qui appartient à la municipalité, il est normal que nous les responsabilisions, puisque quand il y a réparation, en général, ça se fait aux frais du contribuable, notamment quand c'est du matériel ou du mobilier municipal, c'est bien sûr la collectivité, et donc les contribuables municipaux qui payent et qui réparent. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'il est important de pouvoir dire à ses parents, bien sûr vous avez le droit aux aides, vous avez le droit d'être accompagné, mais au-delà de ça, vous avez le droit au ça, vous avez le devoir d'être responsable des actes de vos enfants mineurs, qui sont en général, et malheureusement on peut le constater, et je le déplore, c'est pour ça que nous mettons en place beaucoup d'actions autour, des jeunes de plus en plus violents, de plus en plus jeunes, et qui cassent des fois pour s'exprimer. Pour moi, ce n'est pas un mode d'expression. On doit respecter aussi le bien d'autrui, notamment le bien de la collectivité. Et à partir de là, c'est dire, c'est simple. Si un enfant mineur, récidiviste, démolit, dégrade du matériel municipal, et bien à partir de ce moment-là, nous responsabiliserons les parents et donc nous suspendrons temporairement les aides dont peuvent bénéficier. Alors, c'est bien sûr pas des aides importantes, ce sont des aides parfois ponctuelles, c'est quelques dizaines d'euros parfois. Mais je pense qu'il est important de travailler sur le symbole et il est important justement de, par ce symbole, dire il y a un moment, il faut aussi que les parents soient responsables.
Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez ça va être acté là Vous avez déjà acté ça ou vous allez l'acter ?
On est en train de travailler avec les services de la ville pour que nous respections bien sûr le cadre législatif et le cadre réglementaire. Nous devons passer le contrôle de l'égalité en préfecture. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus. Moi, je l'avais dit lors de mes vœux. C'est une mesure que j'avais présentée lors de mes vœux à la population, qui avait d'ailleurs eu plutôt un bon accueil. C'est de dire nous allons travailler dessus et d'ici la fin de l'année, cette mesure sera mise en place.
Non mais je crois, Alexandre Vincendé, ce que vous posez, ce que vous êtes en train de poser, c'est quelque chose de... Moi, ça me paraît d'ailleurs assez, non seulement assez normal, mais basique. Il y a les droits, il y a les devoirs, il y a la liberté et la responsabilité. On marche sur deux jambes, comme vous dites, mais c'est ça. Si on peut avoir tous les droits, mais s'il n'y a pas de devoirs, et tout le problème, c'est justement, on s'arroge très très souvent, d'ailleurs dans des tas de domaines, des droits sans devoirs, et puis la même chose. Mais écoutez, moi, personnellement, c'est pour ça que j'ai demandé à ce que vous interveniez. Je crois que c'est important de responsabiliser tout le monde et le problème, c'est qu'on a très très longtemps, on s'est dit oui, ça n'a pas d'importance, les familles font une chose, elles ne sont pas responsables, elles ne sont responsables de rien, personne n'est responsable de rien et c'est une société à irresponsabilité illimitée et c'est bien ça le problème.
Mais au-delà de ça, vous savez André Berkov, je crois que si on n'agit pas, on dévoie un petit peu le sens du beau message qu'est la République. La République, elle se doit d'un côté d'être généreuse. C'est ce qui fait d'ailleurs la grandeur de notre pays. On est un pays extrêmement généreux, un des plus généreux au monde. On a par contre oublié dans un certain nombre de territoires, ce qu'on appelle les territoires de la France périphérique, c'est le cas des territoires qui sont en banlieue, on a oublié de parler de mixité sociale, on a oublié de parler d'égalité des chances. Mais on a oublié aussi de parler de responsabilité. C'est le vrai problème. C'est toute l'équation qu'il faut que nous arrivions, nous élus locaux, et à relayer auprès de nos collègues élus nationaux, et qu'il y a un moment, cette République, elle se doit être bien sûr généreuse, elle se doit être humaine, humaniste, mais elle doit de l'autre côté être responsabilisante, et elle doit aussi être forte avec ceux qui ne respectent pas les règles de la République.
Continuer à être un maire responsable. Merci.
Et on remercie donc votre premier invité, André Berkov. C'était Alexandre Vincendé. Il est maire Les Républicains de Rieux-la-Pape, ça c'est dans le Rhône. Et donc, il envisage, ou il prévoit plutôt, de supprimer les aides des parents dont les enfants sont de jeunes délinquants. André Berkov est dans tous ses états jusqu'à 13h sur Sud Radio. Vous réagissez à ces prises de position. Vous êtes nombreux d'ailleurs à appeler au 0826-300-300, notamment pour revenir sur le résultat des élections russes qui ont fait également réagir, vous l'imaginez bien. André Berkov, on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio.
radio. Les Français parlent aux Français. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
Évidemment, dans tous mes états, vu ce qui se passe en ce moment, notamment sur certains voyages présidentiels, et notamment aussi sur un certain nombre de consommateurs de cannabis.
Mais avant ça, vous êtes nombreux à composer. Pardonnez-moi, je m'en étouffe, André Berkov, je suis dans tous mes états moi aussi. Vous êtes nombreux à composer le 0826-300-300 pour réagir notamment aux résultats des élections russes.
Philippe, vous nous appelez de Gironde, bonjour.
Oui, bonjour André. Donc voilà, moi depuis ce matin, j'entends à la radio, sur la télé, que la Russie, c'est grand méchant, là, c'est une démocrature. Donc, alors le terme m'a un peu interloqué. Alors en fait, une démocrature, ok. Mais moi, quand je vois justement aujourd'hui la loi contre la haine et le racisme qui va être prise sur Twitter et sur les réseaux sociaux et tout ça, avec la loi sur les fake news dont vous avez parlé il n'y a pas longtemps.
Ouais.
Tout ça, en fait, je me dis que quand même, est-ce qu'on ne serait pas, nous, en train de rentrer dans une démocrature quand je vois que les gens qui doivent censurer ou contrôler les flux sur les réseaux sociaux, comme aux États-Unis, on a vu une vidéo, en fait, ils le font selon leur mode de pensée politique ou religieux. Critiquer une religion, est-ce que c'est autorisé en France? C'est le blasphème, on a le droit.
Bien
est-ce
sûr.
Que ce sera pas réprimé? Critiquer le gouvernement avec un peu de virulence, ça sera de la haine. Tout ça, ça me fait penser que on n'est pas vraiment dans une démocratie classique, on ne s'assume pas, j'ai l'impression.
En tout cas, on peut se poser effectivement la question. Évidemment, soyons clairs, la France n'est pas la Russie et la liberté d'expression en France est quand même jusqu'ici, nettement plus grande qu'en Russie. Mais, vous avez tout à fait raison, il faut faire très attention parce que qui va censurer, qui va juger, qui sur les réseaux sociaux va commencer à tailler des coupes sombres dans ce qu'on dit. Moi, je suis toujours, quand la liberté commence à être, comment vous dire, écaillée, fendillée, segmentée, ça ne va plus. Marie, vous nous appelez de Lourdes. Bonjour Marie.
Bonjour André Berkov. Mais écoutez, moi, je voulais pousser un cri de colère.
Dites-moi.
Excusez-moi, contre vous.
Ah bon, allez-y.
Oui.
Allez-y.
Parce que je vous ai entendu en train de faire les louanges de M. Poutine.
Ouais.
Qu'il pense à la Russie, qu'il pense à son pays, qu'il pense à ça, à ça, si. Mais écoutez, monsieur, il pense à son pays de quelle manière? Il est l'ami de Assad. La stabilité de son pays, c'était comme la stabilité de Assad. 40 ans, Assad a stabilisé son pays. Comment? À quel prix? Vous défendez la liberté. Il faut vivre en Russie et voir comment les gens sont libres, hein? Alors, on parle avec à la bouche.
Oui, Marie, juste un mot. Attention, je comprends très bien ce que vous dites par rapport à Assad, etc. Là, moi, je ne parlais pas de la Syrie, je parlais de la Russie. Ce que je peux vous dire, non, juste un mot. Je suis allé plusieurs fois en Russie, et évidemment, je n'ai pas fait de sondage, je ne suis pas sondeur, et d'ailleurs, les sondeurs, j'ai beaucoup à dire. Personne ne peut nier que, bien sûr qu'il y a des choses à dire sur la Russie, mais Poutine a quand même, pour les Russes, redonné une fierté qu'ils avaient totalement perdue et où ils étaient vraiment... Et ça, tout le monde, y compris les anti-Poutine les plus extrêmes, le reconnaissent. Il y a quand même une conscience nationale dans ce pays. Et moi, je suis pas du tout un poutinophile ou un poutinolâtre. C'est évident, la Russie, vous savez, ils ont la tradition des tsars et ça a toujours vécu comme ça. Malheureusement. Mais quand même, on ne peut pas nier que Poutine a redonné à la Russie une certaine image. Et les Russes, je vous assure, le ressentent assez fortement.
Je suis d'accord avec vous, monsieur.
Oui.
Mais à quel prix? Il y a du sang ailleurs qui coule, hein?
Ah, mais je sais qu'il y a des sangs ailleurs qui coulent.
Et alors, monsieur, pourquoi c'est réducteur ce que vous dites?
Mais pas du tout.
Il faut parler de tout. Il faut parler comment encore ce Poutine, il est en train de faire le coq chez lui, hein?
Oui, mais écoutez, il fait le coq
prix,
chez
c'est
lui.
Le sang des autres,
mais hein. Vous savez très bien. Alors, écoutez, il faut parler de tous les pays. Malheureusement, Marie, et je suis d'accord, j'aimerais que le sang coule nulle part, mais le sang coule au Yémen, le sang coule au Soudan, le sang coule partout. Donc, pas de. Voilà, pas de, moi, je n'ai pas de poids de mesure.
On ne défend personne, monsieur.
Si, si, si. On défend simplement quelqu'un qui a redonné la fierté à un pays. Et c'est très, très, très important. Et juste pour la Syrie, mais c'est mon opinion, le problème était que, vous le savez très, très bien, il y a à choisir quelquefois dans un pays entre Daesh et l'armée. Qu'est-ce qu'on choisit ? Parce que
on
vous
a,
le savez très bien.
On a imposé Daesh, monsieur. Ben écoutez, vous connaissez très bien la réalité.
Oui.
Enfin, on a imposé Daesh.
Marie, alors,
il y avait d'autres
c'est
choix.
Possible.
Alors, n'en parlons pas.
C'est possible. Marie, en tout cas, écoutez, on reparlera de la Syrie. Simplement, et vous savez très bien, et vous savez, sur Sud Radio, on exprime toutes les opinions. Et c'est très bien que vous ayez une opinion différente. Et je la respecte profondément. Mais on va reparler de la Syrie la semaine prochaine.
Et on vous remercie, Marie, de nous avoir appelé au 0826-300-300. Comme quoi, vous voyez, vous nous parliez de la liberté d'expression. Elle existe partout, et en particulier sur Sud Radio, quand Berkoff est dans tous ses états entre midi et 13h, parce qu'il attend toutes les opinions, qu'elles soient en accord avec les siennes ou pas, justement, pour s'y confronter. Vous tous qui nous écoutez, vous nous appelez au même numéro.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Ah, l'Inde, Bollywood. Moi, j'adore Bollywood. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je n'ai aucun goût, je sais. Je manque totalement.
Pourquoi n'auriez-vous aucun goût,
j'adore
André ?
J'adore Bollywood. Bollywood, c'est magnifique. Et je vous assure, là, j'étais envieux du couple Macron qui est allé en Inde. Je suis allé plusieurs fois en Inde. C'est un pays absolument magnifique, avec des côtés terribles, il faut le dire aussi. Mais... Et alors, j'ai lu comme beaucoup de gens, parce que c'est un journal qui vend très bien et gloire à lui. Paris Match, le compte-rendu du magazine, de l'hebdomadaire Paris Match, du voyage d'Emmanuel et Brigitte, magnifique, magnifique. C'est formidable. Et il raconte comment l'ex-président de la République, le conseil municipal de Paris vient avec empressement saluer votre tour. Il vient se visiter avec vous du triomphe. C'était pour Paris à Napoléon III. Mmh. Et là, s'il y a un dossier de 8 pages, d'abord le couple Macron devant le Taj Mahal, magnifique.
Photo romantique, kitsch, souhait, mais sublime. Hein, bon.
Et ils disent, et il s'est écrit, hein, pour les
sur
Indiens,
Paris Match.
Macron mérite plus que jamais le titre d'Emmanuel le Majestueux. D'ailleurs, dorénavant, mon cher Jean-Marie, ici sur Sud Radio, en tout cas dans mon émission, n'appelleront plus Macron que Emmanuel le Majestueux, je le promets. Je tiens à lui rendre hommage. Mais alors, ça va beaucoup plus loin. Brigitte Macron promène avec classe l'élégance française, un parcours sans faute. La petite robe rose à tenue de cocktail en dentelle, le 100% signé Louis Vuitton, c'est magnifique. Mais alors, nous arrivons à l'apnée. Nous arrivons au couronnement. Écoutez-moi bien. Même les chèvres de la capitale s'inclinent sur son passage. Voilà, c'était en Inde. Écoutez bien. Sud Radio était en Inde. Allez-y, remets ça. Le couple Macron passe et on entend ce
c'est
bruit magnifique.
C'est le cortège d'acclamations.
C'est formidable. Ça fait plaisir. Vous voyez, nous avons aussi des exclusivités, nous avons des scoops. Voilà, et j'étais très content. D'ailleurs, cette chèvre-là va être rapatriée en France.
Donc, en gros, Paris Match a réellement écrit noir sur blanc dans ses feuilles. Les chèvres s'inclinaient sur le passage.
Même les chèvres de la capitale s'inclinent sur son passage. Je vais vous dire, au début, on m'a raconté ça, j'ai pas cru. J'ai dit, j'ai regardé Paris Match, je me dis, c'est pas possible. Eh bien, je vais vous dire, ces chèvres sont lucides. Ces chèvres ont compris la grandeur du couple présidentiel. Bravo les chèvres, mais n'oubliez jamais ce que disait le prédicateur, la chèvre est faible.
La chèvre est faible, mais bon, les moutons sont encore plus faibles, alors c'est déjà absolument. Ça. 0826-300-300 pour réagir aux prises de position d'André Berkoff et à sa petite revue de presse, qui ne manque pas d'ironie, mais de temps en temps, il faut quand même bien le lire, ça fait du bien.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Les syndicats, chanvre et Marie-Jeanne, opium à chiche, Blanche-Neige.
Oui, Marie-Jeanne, vous savez, Marie-Jeanne, c'est pour parler un peu, c'est pas Marie-Jeanne, la jeune fille pure et sans problème et sans peur et sans reproche, c'est pour parler de la marijuana, et oui, du cannabis, si vous voulez, etc. Eh bien, il y a eu quelque chose qui s'est passé, et je fais un bravo, effectivement, au parquet de Moulins, et oui, le tribunal correctionnel de Moulins, dans l'Allier, il y avait un quadragénaire qui était atteint d'un cancer, qui cultivait et fumait du cannabis pour soulager ses douleurs. Et il a expliqué que la morphine lui faisait presque plus rien. Vous savez, c'était un cancer galopant, douleur terrible. Et il a cultivé son propre pain de cannabis plutôt que d'en acheter un trafiquant. Il a donc il a planté des graines dans son jardin et il dit que le cannabis lui a fait beaucoup de bien parce que ça a diminué sa douleur. Il faut le savoir d'ailleurs qu'aux États-Unis, il y a plusieurs États qui ont légalisé, en tout cas permis la vente légale du cannabis, surtout pour les malades. Il faut savoir que le cannabis, à tort ou à raison, il a des vertus thérapeutiques et il a expliqué ce prévenu qui est en invalidité depuis février 2015. Il dit « J'avais conscience que ce n'était pas légal, mais le cannabis, ça me pose, ça me détend plus que la morphine. » Voilà. Alors, ils m'ont pris, les gendarmes sont dans un premier temps, ils ont pris le matériel puisque c'est illégal.
Oui, c'est normal, c'est illégal. Enfin, c'est illégal, normal, c'est la loi.
Oui. Oui, c'est la loi. Et alors, il n'en pouvait plus, c'était une horreur. Il a fait, si vous voulez, il a porté plainte. Et il dit, j'entends les justifications données sur votre usage de cannabis à but thérapeutique. S'il n'est pas justificatif, j'aurais demandé une condamnation. La procureure Audrey Galland, eh bien, l'a relaxé. Eh bien, voilà. Je trouve que c'est très bien et que quand on souffre de douleurs atroces, quand on a vraiment des cancers terminaux, il ne s'agit pas d'encourager au cannabis, mais si le cannabis peut apaiser la douleur comme d'autres médicaments, eh bien, faisons-le. Voilà, le cannabis, c'est pas seulement la fumée du diable ou l'herbe du diable et la petite fumée.
Donc, parlons vrai, rapidement, sur Sud Radio, André Bercoff. Le cannabis à usage thérapeutique, vous êtes plutôt favorable à sa légalisation en France, si ça peut permettre de soulager la douleur des malades.
Tout à fait.
Tout à fait. Ben, c'est clair, c'est net et c'est précis. Bercoff, qui est dans tous ses états, toujours jusqu'à 13h sur Sud Radio. Dans quelques instants, le face-à-face, André Bercoff reçoit son invité Yves Michalon, l'auteur et éditeur qui publie en ce moment « Au royaume des crapauds fous surgit un merle blanc ». C'est aux éditions, évidemment, Michalon. À tout de suite sur Sud Radio.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Bercoff dans tous ses états.
Ivre livre, quelquefois, la lecture, c'est la chose la plus importante du monde quand surgit un livre qui met en question toutes les questions.
Sud Radio, Bercoff dans tous ses états. Le face-à-face.
Et tout de suite, André Bercoff, on accueille votre invité Yves Michalon, l'éditeur et auteur du livre « Au royaume des crapauds fous surgit un merle blanc » publié aux éditions Michalon.
Alors bonjour. Yves Michalon, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vais vous dire, quand j'ai lu ce livre, d'ailleurs j'ai lu ces livres, parce qu'on va en parler, et on va parler de littérature aussi, parce que c'est pas mal dans Bercoff dans ses états, on parle beaucoup de politique, beaucoup de société, peut-être pas assez de littérature. Et vous avez créé un livre de littérature, un livre d'écrivain. Alors moi, j'aurais plutôt dit, au royaume des crapauds blancs surgit un merle fou. Parce que vous avez un côté merle fou, Yves Michalon. D'abord, qu'est-ce qui vous a amené à rééditer et à reparler, et vous avez... En fait, il y a trois livres dans ce livre, il faut le dire. Il y a le premier que j'avais lu, Le Pousse-Caillou, qui était paru chez Robert Laffont en 79. Il y a Le Boulevard de l'Absolu, chez Albin Michel en 92. Et enfin, le dernier, c'est Les Crapauds, justement. Les Crapauds fous. D'abord, l'idée est venue... Qu'est-ce qui vous a amené de... Parce que c'est un itinéraire, ce sont des récits... En fait, vous faites le miroir qui réfléchit, c'est Cocteau, l'expression est de Cocteau, hein, il est temps que les miroirs réfléchissent, du 20e siècle et du début du 21e. Qu'est-ce qui vous a amené à...
Alors, il y a plusieurs considérations. Il y a d'une part que le Pousse-Caillou qui est sorti il y a très longtemps, on me le demande sans arrêt, il est épuisé, etc. Et puis un jour, j'ai un ami critique qui m'a dit, écoute, il faudrait que je le ressorte. Et j'ai dit, non, je ne vais pas le ressortir, je vais faire la suite. Et ça, je m'y suis mis sans m'y mettre vraiment. Et puis un jour, un peu pressé par les événements, dans une sorte d'urgence, parce que j'ai une épreuve à traverser en ce moment qui est un peu complexe.
Une épreuve de santé.
Hein. Oui, je me suis dit, allez, vas-y, je veux dire, tu continues. Et puis ça va faire un ouvrage, je veux dire, qui va parler d'une génération entière. La mienne, et tous les événements qu'on a pu être amené à subir ou à ou qui nous ont forgé le cortex et amené à réfléchir.
Et oui, c'est très intéressant parce que vous parlez, en fait, en le lisant, je veux dire, et pour ça qu'il faut le lire d'une traite, il faut le voir, c'est que vous parlez, enfin, vous êtes né en janvier 45.
Exact.
Donc, vous êtes enfant du baby-boom, comme on dit.
C'était, ouais, moi, je dis Yalta et Coca-Cola.
Voilà. Ouais. C'était Godard disait enfant de Marx et de Coca-Cola. Vous, ouais. C'est Yalta et Coca-Cola.
Bah, oui, c'est exactement ça. Je veux dire, et puis, aujourd'hui, je veux dire, une génération un peu perdue, je veux dire, parce qu'elle a... Elle a eu à vivre ou à se mettre en compte de beaucoup d'idéaux qu'elle n'arrivait pas à assouvir, d'engagement. Et c'est ce qui m'intéressait. Ma propre vie, on s'en fout. Je veux dire. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont mes émotions se sont plaquées, oui, à tous les événements qui se sont succédés pendant toute cette période-là.
Tout à fait, mais on ne s'en fout pas de votre propre vie, Michalon, parce que justement, c'est votre vie que vous racontez et votre vie par rapport à la vie du monde, et évidemment les sensations qu'elle vous procure.
Oui, bien, alors je veux dire, il y en a qui vont dire, écoute, il nous emmerde, je veux dire, parce qu'il est beaucoup trop sensible à ce qui se passe, sa nature, je veux dire, est complexe, etc. Et je, surtout dans les deux premières parties, je suis assez dans l'inexprimé, parce que c'est ma nature aussi de ne pas se mettre en avant. Je sais pas comment expliquer ça, donc ça rend... quelquefois la lecture un petit peu absconde, mais pas tant que ça. Pas
non,
tant que ça.
Oui.
Moi, et surtout sur la fin, où là, je suis plus factuel, etc. Et puis, bon, il y a aussi le plaisir d'écrire, hein, ça c'est évident chez moi. Donc, et le premier livre, je dirais, ça avait, et qui avait eu un beau succès à l'époque, hein, avait été
Mais justement, c'est très intéressant, Michalon, parce que vous parlez des événements... Et en même temps, c'est-à-dire, on mène notre vie et notre vie nous mène. Et on le voit très, très, très bien dans votre livre. Vous parlez tous les événements. D'abord, enfant, c'était Staline, etc., etc., le marxisme, la gauche, la droite, etc. Vous parlez de votre père, de votre mère. Enfin, vous en parlez d'ailleurs très, très bien. Et en même temps, on a l'impression que par rapport aux événements, justement, vous avez, au début, je ne dis pas que vous les subissez, mais vous êtes extrêmement pudique et après vous vous libérez. Dans le troisième, on sent que vous vous libérez.
Ben oui, je veux dire, ma vie a été faite d'engagement, de combat en permanence. Je veux dire, je suis un militant au niveau des idées, je l'ai toujours été. Donc j'ai été forcément frustré. J'ai été de tous les sérails, de tous les antichambres, de tous les ministres, les premiers ministres, les présidents, etc.
Vous les avez tous connus, les politiques, enfin beaucoup. Oui,
tous, j'ai beaucoup fréquenté, je veux dire, ouais. Ils se sont nourris de pas mal d'idées, mais j'ai jamais franchi le pas de l'engagement parce que...
Pourquoi ?
Parce que je suis un homme libre. J'ai voulu rester un homme libre, et à chaque fois que je sentais que c'était possible, je savais que j'ai abandonné une part de ma liberté. Donc j'ai préféré mener mes petits combats tout seul, à mon niveau, comme ceux que j'ai menés sur la fin, ces 10 dernières années, du reste, avec Est Liberté, ou autoproclamé, je suis allé avec la bannière défendre la démocratie dans tous les pays de l'Est, auprès de ces nouveaux, je veux dire, opposants qui venaient au pouvoir et qui n'avaient pas les bases, qui ne connaissaient pas, je veux dire, qui ne savaient pas comment s'y prendre.
Donc vous êtes allé beaucoup en Europe de l'Est.
Ah bah, j'y allais tout le temps. Il n'y a pas un mec comme moi, je ne connais pas beaucoup, qui sont allés 15 fois en Albanie pour aller essayer de sauver la démocratie là-bas et réussir. Parce que très très vite, on a été par les communautés européennes, donc abondées, donc j'avais une équipe, etc. Et très honnêtement, j'y prenais beaucoup de plaisir et de satisfaction et de résultats. Donc la politique peut se mener autrement, on peut se comporter autrement dans la vie, on peut... essayer d'assouvir tous ses rêves, je veux dire, mais pour ça, je veux dire, il faut au maximum éviter toutes les entraves. Alors, c'est pas facile à vivre vivre tous les jours, parce qu'on n'est pas dans le sérail, d'où le crapaud fou, le merle blanc, etc. Mais on se fait à terme une vie finalement assez riche. Et là, pour une fois, merci, là, je sors du bois et j'essaye de raconter toute cette période-là. Avec beaucoup de retours excessivement. Je déjeunais l'autre jour avec un de vos amis que vous connaissez, du reste, oui. Qui est mis Yves, ce qui est fascinant dans ton bouquin, ce que j'ai adoré. J'ai un itinéraire complètement opposé au tien. Moi, je viens d'une famille gaulliste, bourgeoise, etc. On ne choisit pas sa famille. Lui venait d'un milieu trotskiste, c'est-à-dire pas du tout le même itinéraire.
Gauchiste, exactement, tout ça, oui.
Exactement. Ouais. Il n'a pas du tout le même. Enfin, bref, vous avez compris. Et il me dit, mais je me retrouve, malgré tout, dans ton livre, parce que J'ai vécu les mêmes choses. Je veux dire, c'est des engagements qui ont été déçus, des combats qu'on a menés qui n'ont pas forcément abouti à ce qu'on voulait. Et à ce niveau-là, on est pareil. Et ça, ça me fait très plaisir.
Alors justement, Michel, juste pour parler concret, on va être assailli de commémoration avec mai 68, dont on fête le 50e anniversaire. Alors vous, en accession, vous aviez 23 ans, en 68, avec le recul, d'abord, vous l'avez vécu comment, et avec le recul, vous en pensez quoi ?
Ah bah, je l'ai vécu comme beaucoup de types de ma génération et de mon âge, c'est-à-dire, j'étais tout le temps dans la rue, je ne suis pas monté, je veux dire, sur les barricades pour aller lancer des pavés, mais j'ai énormément parlé à tous les coins de rue, etc. Et là, je voyais qu'il se passait quelque chose. Mais ça, je l'avais senti venir, donc j'étais prêt. Je serais à la Sorbonne à n'importe quelle heure. Je vivais l'événement, mais au niveau de l'engagement, des cas de violence, moi, je refuse la violence. Donc, ça fait partie des choses que je ne peux pas. Oui. Ouais.
Vous n'avez jamais fait partie d'un parti politique. Vous n'avez jamais.
Il faut être cohérent. Ouais. Jamais. Ouais. Le seul parti auquel j'ai adhéré, c'est pas un parti, je le raconte tout à fait à la fin du livre, c'est j'ai été dans un ordre de chevalerie. C'est-à-dire, c'est la seule concession que j'ai faite, c'est un côté désuet, etc., mais les valeurs cardinales étaient justement le courage, l'indépendance et l'action, quoi, le mouvement.
Et aujourd'hui, 68, pour vous, c'est quelque chose qui mérite d'être fêté ou commémoré ou pas ?
On s'en fout, je veux dire, c'est pas l'esprit de 68 de fêter 68. Mais d'en faire le constat au niveau de l'histoire, bien sûr. Bien sûr, et du reste, on est encore aujourd'hui dans une période à nouveau pré-révolutionnaire, ça c'est sûr, le monde de demain n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Et il faut s'y préparer, on oppose tout le monde à tout le monde. On oppose les
la lutte de tous contre tous.
Ouais, c'est plus la lutte des classes, c'est la lutte
des places,
des âges, des âges, je veux dire. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant de témoigner parce que maintenant, je veux dire, mes nouveaux engagements, parce qu'il m'en faut toujours, ils sont d'abord vers les femmes et les enfants, parce que au niveau de ça, c'est l'éditeur qui va parler. Hein. J'ai toujours été très en avance.
Pas oublier que Michelon, c'est un éditeur et un très bon éditeur. Je ne vais pas vous faire de faillotage, mais vous êtes un très bon éditeur. Vous avez beaucoup publié.
Oui, mais même là, ce sont des livres de combat. C'est-à-dire que ce sont des livres. On était les premiers à faire le viol comme arme de guerre, la GPA, la PMA, tous les faits de société, le viol conjugal. Récemment, les dons de sperme sauvage, je veux dire, toutes ces la fin de vie. J'ai un catalogue d'auteurs qui, c'est pas hasard, c'est pas hasard s'ils sont chez moi, parce que c'est comme ça qu'on va faire évoluer la société. Et de ce point de vue-là, on est dans un acte politique, parce que on met sur le tapis des sujets qui sont aujourd'hui à l'heure du jour. Quand j'ai fait la GPA, je veux dire, ou encore mieux, je vais vous raconter un truc. Quand j'ai fait la GPA, c'était il y a 10 ans, personne n'en parlait. Je veux dire, aujourd'hui, c'est devenu
c'est un sujet qui est abordé. On va légiférer dessus, même.
Ben oui, d'accord. Donc mes auteurs sont invités chez Macron pour aller discuter un petit peu avant de se faire une meilleure idée. Je les envoie et c'est bien. Et beaucoup plus en amont, un truc que j'avais oublié, puis ça m'est revenu, c'était quand j'avais lancé, là j'étais dans la communication à l'époque, j'avais lancé le premier test de grossesse. Ouais. Alors aujourd'hui ça paraît banal, il n'y a plus une femme qui pense qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on était obligé, si on voulait savoir si elle était enceinte, d'aller dans un labo qui préservait son monopole, parce qu'ils se disent pognon là-dessus, etc. Et nous on l'a libéré, ça j'ai attendu le procès à Limi et le discours de Simone Veil, on a foutu sur le marché illico, après une perquisition violente des flics chez moi, parce qu'ils voulaient savoir ce qu'on allait faire, ce qu'on avait derrière la tête, etc. On a libéré le truc, et du jour au lendemain, ça y est, la femme pouvait enfin, je veux dire, avoir la liberté de savoir tranquille, dans son coin, etc.
Donc Yves Michelon, et vous montrez dans ce livre, vous considérez que vous avez réalisé vos rêves ?
Bah, écoutez, les rêves d'abord...
Vos rêves de jeunesse.
J'ai eu beaucoup d'engagements et beaucoup d'engagements ont donné des résultats. Je vous parlais des pays de l'Est. Là, franchement, on a fait un travail formidable que personne d'autre n'aurait pu faire. Je veux dire, puisqu'on s'est autoproclamé, encore une fois. Ma vie est semée de combats qui ont été menés et quand ils sont réussis, c'est bien. Et aujourd'hui, avec l'âge que j'ai, avec la maladie que je traîne, ma vraie satisfaction, c'est de... c'est quand les autres vont réussir, ceux qu'on
bien sûr,
c'est ceux qu'on met en scène,
le flambeau,
ah oui,
le relais,
ça
le
c'est
relais.
Génial.
En tout cas, moi, il y a une chose que je voudrais dire aux éditeurs de Sud Radio et à tout le monde, c'est que non seulement vous êtes éditeur, mais vous êtes écrivain. Il faut lire ce livre parce que c'est un livre d'écrivain. Je n'en aurais vraiment pas parlé à part la justesse, la légitimité des combats. C'est un livre d'écrivain et il faut le lire qu'un livre d'écrivain. Parce qu'à ce moment-là, vous savez, il y a quelque chose de plus important que tout. C'est ce que j'appelle la chaleur humaine. Et vous en avez beaucoup, Yves Michelon.
Merci.
Merci à vous Yves Michelon. Je rappelle quand même votre ouvrage, Au royaume des crapauds fous surgit un merle blanc, qu'on peut se procurer aux éditions donc Michelon. Merci à vous également André Berkoff. On vous retrouve donc demain à midi dans Tous vos états sur Sud Radio, de midi à 13h. Pardonnez-moi, encore une fois, décidément il fait froid. On vous retrouve donc demain à midi dans Tous vos états sur Sud Radio. On peut vous réécouter en podcast, en boîte, tout sage, sur sudradio.fr. À suivre sur Sud Radio, Les clés d'une vie, Jacques Pessis, qui reçoit la chanteuse Hélène Segarra. Et avant ça, vous réécouterez les informations de Félix Mathieu. À tout de suite sur Sud Radio.